Moi, je choisis des oranges.
Alors, je risque pas d'ailleurs d'en retrouver beaucoup, hein, parce qu'il paraît que dans les prisons, il n'y en a pas beaucoup de nos amis. Là. Parce que le rabbin aumônier de prison, là, c'est ça. Alors, donc, l'idée de Clément, c'est de pas se replier, de pas faire en sorte que les premiers chrétiens se replient comme l'avait fait la synagogue, en fait. Qui soit capable de, bah, disons, de frayer avec les autres gens. Et puis aussi cette espèce d'optimisme qui consiste à voir dans la pensée aussi des autres des semences du verbe, hein, ce qu'il appelait les semina verbi. Donc tout ce qui est, la grande idée, c'est que tout ce qui est rationnel vient du verbe, donc tout ce qui est rationnel a une origine chrétienne, sans le savoir, inconsciente. Et bien entendu, tout cela, c'est la vera philosophia, c'est une pierre d'attente pour la vera philosophia, la vraie philosophie, donc le christianisme qui est... Et d'ailleurs, c'est assez vrai que l'Égypte s'est très vite convertie au christianisme. Il y avait certainement, à travers la religiosité égyptienne, ou peut-être aussi... On dit que les Égyptiens sont des gens qui ont plutôt mon caractère. Il devait y avoir certainement une prédisposition aussi à devenir chrétien. Alors aussi, il a écrit un troisième ouvrage, qui n'est pas vraiment un ouvrage, mais qui est plutôt un truc du pédagogue. Alors, je vais lire un peu du pédagogue. Alors, on nous appelle enfants, nous accueillons avec bonheur cette appellation. Les enfants, ce sont les âmes neuves au milieu de la vétusté, de la vétuste folie, les nouvellement sages, celles qui sont issues du Testament nouveau. Jeunes, elles sont un peuple autre que l'ancien, le peuple nouveau formé à l'école des nouveaux biens. La fécondité de notre âge, c'est notre jeunesse, exempte de toute sénilité. Elle nous applique sans cesse avec force à connaître. Et nous sommes jeunes toujours, toujours enfants, toujours nouveaux. Saurait-il ne pas être nouveau, cela qui participe au verbe nouveau ? Quiconque est entré en participation de l'éternité devient avec joie incorruptible. Ça aussi, saint Augustin avait beaucoup commenté le cantique nouveau. Ils chanteront un cantique nouveau. Ainsi, enfant veut dire que pour nous, toute la vie est un printemps. Elle l'est parce qu'en nous... Oui, d'accord, Emmanuel l'avait dit. Pour ces printemps, finalement, il n'avait pas dû penser à Titus Flavius Clemens. Hein.
Quel pédagogue,
c'est quel pédagogue. Alors, ainsi, enfant veut dire que pour nous, toute la vie est un printemps. Elle l'est parce qu'en nous, la vérité ne connaît pas de vieillesse et qu'en elle se meut notre existence entière. Sagesse toujours germinante, toujours égale et toujours constante, éternellement immuable. Leurs petits enfants, est-il écrit, seront portés sur les épaules et consolés sur les genoux. Comme un fils que sa mère consolera, moi aussi je vous consolerai. La mère attire dans ses bras ses petits enfants et nous recherchons notre mère, l'Église. Alors voilà, c'est pour ça qu'il nous compare à des petits enfants que l'Église ne cesse d'engendrer. Et alors, les petits-enfants ont donc besoin du travail du pédagogue pour les amener à la maturité, la plénitude de l'état chrétien, comme le dit saint Paul. Alors, passons maintenant aux stromates. Alors, stromates, ça veut dire les tapisseries. Alors, les tapisseries, vous voyez, ça veut dire en gros patchwork. Et c'est exactement ça. Les stromates sont une sorte de juxtaposition d'écrits divers de Clément, une sorte de patchwork en somme, qui, un peu comme les pensées de Pascal, qui étaient probablement destinées à être un ouvrage plus conséquent, plus ordonné. Donc ce sont des miscellanéas, si on peut dire, des mélanges, des écrits disparates. Alors, il y a des notes de cours, puisqu'il était, il enseignait dans son école de philosophie. notamment des notes de cours qui auraient sûrement, enfin, qui étaient destinées à être développées et qui n'ont pas été. Alors, par exemple, le livre 1, ainsi qu'une partie des livres 2, 3 et 4, traitent d'apologie, un peu comme Pascal, hein, vous voyez, de thèmes à l'apologétique. Le livre 3 traite du mariage entre rejet et débauche. Donc, critiquant les ancratistes gnostiques et autres qui rejettent le mariage et ceux qui se livrent à la débauche. Et il va développer dans le cinquième livre la figure du gnostique chrétien, c'est-à-dire du chrétien cultivé en somme, de celui qui approfondit sa connaissance du christianisme. Il pense, comme Plotin, qu'on ne peut exposer la vérité objectivement, mais qu'il faut la chercher expérimentalement. Autrement dit, la vérité, elle se goûte, elle se connaît pas simplement de l'extérieur, il faut qu'elle se goûte. Elle est le fruit d'une quête à la fois intellectuelle et spirituelle. Vous vous souvenez, c'était quand même la nouveauté chez les gnostiques, enfin, et surtout chez les néoplatoniciens, que le désir de connaître était inséparable de la nécessité de se convertir. Donc, il fallait... Et Plotin lui-même avait prétendu avoir des expériences mystiques. Donc, sa connaissance, elle était liée à son expérience. Alors, vous allez me dire, chez saint Paul, on trouve ça aussi, quand il dit qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel, qu'il a... Bon, etc. Donc, il y a l'idée que on connaît pas d'une manière distante et objective, mais on connaît par connaturalité, en somme. Donc, ça suppose une quête. Donc, le chrétien a besoin d'un maître pour le guider afin de devenir parfait, le guider sur le chemin de l'expérience chrétienne. Vous voyez ? Donc, on a besoin de maître pour devenir parfait, vivre vraiment dans la présence de Dieu. Alors, Clément va s'efforcer de donner des éléments de discernement pour que les chrétiens choisissent des bons maîtres, donc pas des gnostiques, pas des néoplatoniciens, etc., mais des gens qui les aident vraiment à se disposer à cette expérience spirituelle. Alors évidemment, par ses écrits, il est un peu ce maître. Voilà. Donc, discernement entre d'un côté la gnose hérétique, qui est incapable de tenir la ligne de crête des vertus, puisqu'il y a un automatisme dans le gnosticisme. Si on est un pneumatique, bon, en fait, on est sauvé, parce que la petite étincelle divine, elle retournera nécessairement à son origine, quoi qu'on fasse. Et si on est un matériel, un illique, de toute manière, on est perdu, donc ça ne sert à rien de se convertir et de vivre la vie morale. Alors ça, c'est la gnose hérétique et la gnose orthodoxe, qui est la gnose chrétienne, qui est cette découverte progressive d'une vérité qui se goûte, autrement dit d'une sagesse. En fait, voilà, c'est un peu l'idée. Le pédagogue va conduire le chrétien à être un sage. Alors, par exemple, le gnosticisme hérétique ira de l'ascétique, enfin de l'ascèse absolue, le refus du mariage, l'ancratisme, jusqu'au libertinage, par exemple, en disant que la chair n'ayant aucune incidence sur le salut, on peut en faire ce qu'on veut. Exactement ce que reprendront les cathares, par exemple. Et on peut dire aujourd'hui, beaucoup de nos contemporains qui sont une idée tellement spirituelle de du christianisme, qui considère que finalement la vie dans la chair n'a pas d'incidence sur le christianisme, sur notre salut. Donc du coup, on peut faire ce qu'on veut. C'est pas là-dessus qu'on sera jugé. Voyez. De même pour le martyr, où certains le provoquent pour se libérer du corps, ce sont les gnostiques, tandis que d'autres apostasient en disant que leur langue, finalement, n'a pas de lien avec leur âme. Donc ce qu'ils disent de langue, en fait, ils ne le pensent pas, et donc ça n'a pas d'importance. Alors pour Clément, la véritable attitude est celle de la mesure dans l'unité du composé humain, où la matière a sa valeur, d'où le oui au mariage qui conserve le monde, par exemple, dit-il. Pour lui, les biens terrestres sont neutres et leur usage, enfin leur valeur dépend de l'usage qu'on en fait. Ainsi, dit-il, un riche qui utilise bien ce qu'il possède en faisant l'aumône est moralement plus digne qu'un pauvre qui passe sa vie à convoiter la richesse.
Vous pensez qu'il vaut mieux être riche de tout point de vue.
Oui. Ah oui, c'est ça, parce que soit on est riche et on ne fait pas l'aumône, mais on est quand même riche.
Cool.
Ou alors on fait l'aumône et c'est bien, et puis c'est moralement bien.
Ouais.
Alors justement, il y a un de ces écrits qui s'appelle « Quel riche peut être sauvé ?» Il y a des tas de petits écrits comme ça qui répondent à des questions. Et là, j'ai mis un passage. Alors, il dit ceci. « Il ne faut donc pas rejeter les biens susceptibles d'aider notre prochain. La nature des possessions est d'être possédé. Celle des biens est de répandre le bien, et Dieu a destiné ces derniers au bien-être des hommes. » Donc, vous voyez, les choses sont faites pour être possédées, quoi. Les animaux pour être mangés, les plantes pour être aussi mangées. Voilà. Je dis ça pour les véganes et autres. Vous connaissez la blague pour sauver les biens sont entre nos mains comme des outils, des instruments dont on tire bon emploi si on sait les manier. Si tu t'en sers avec adresse, ils sont même adroits. Si tu es malhabile, ils deviennent les jouets de ton ignorance. Il en est de même avec cet outil qu'est la richesse. Sais-tu en user justement ? Elle sert la justice. En fais-tu un usage malhonnête ? La voici de nouveau vouée au mal. La nature en a fait une servante, non une maîtresse. Il ne faut donc pas la décrier, puisqu'elle n'est en soi ni bonne ni mauvaise, mais parfaitement innocente. De nous seuls dépend l'usage, bon ou mauvais, que nous en ferons. Notre esprit, notre conscience ont entière liberté de disposer à leur guise des biens qui leur ont été confiés. Détruisons, non pas nos biens, mais les passions qui en pervertissent l'usage. Lorsque nous serons devenus honnêtes, nous serons alors usés honnêtement de notre fortune. Ces biens dont on nous dit de nous défaire, comprenons donc bien que ce sont les passions de l'âme. Débarrassons-nous donc des possessions nuisibles, non de celles qui, bien utilisées, peuvent obliger les autres. Quelles sont précieuses les richesses que l'on manie avec sagesse, sobriété, piété. Chassons donc nos passions néfastes, les biens extérieurs, eux, ne font pas de mal. Voilà comment le Seigneur conçoit l'usage des biens extérieurs. Nous devons nous défaire non pas d'un argent qui nous fait vivre, mais des forces qui nous en font mal user, c'est-à-dire les maladies de l'âme, les passions. Celui-là blottit sa richesse en son cœur et au lieu du Dieu esprit, garde en lui son or ou son champ, arrondit sans fin sa fortune, ne s'inquiète que d'amasser davantage, il garde toujours les yeux baissés et s'embarrasse dans les pièges du monde, car il n'est que terre et retournera à la terre. Et peut-il éprouver le désir du royaume, cet homme qui au lieu du cœur porte un champ ou une mine et que la mort surprendra fatalement au milieu de ses passions? Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Oui, c'est pas mal. C'est, on voit bien ça, c'est très dans la ligne des stoïciens, par exemple. Les stoïciens avaient à peu près le même enseignement. Et alors, Bien sûr, ça suppose que les biens, la possession des biens ne pervertissent pas justement le jugement. C'est là aussi un peu le danger, parce que le fait de posséder peut parfois inciter à posséder plus. Voilà. Tandis que, voilà, il peut y avoir un attachement. Enfin. En tout cas, l'idée fondamentale est très juste, hein. Ce sont, les choses sont neutres et c'est l'usage que nous en faisons qui va les ennoblir ou les avilir, en un mot. Et ce n'est pas la chose en soi. Alors, moyennant quoi, saint Antoine du désert, là, un siècle après, il entendra les choses au pied de la lettre. Hein. Va, vend tout tes biens, hop, il vendra son champ et il fera le choix de la pauvreté. Mais bon, voilà, il y a aussi une complémentarité des vocations. C'est ce que nous disait le père abbé du Barou samedi dernier.
Au contraire des animistes, hein, dans la communauté africaine, on voit des dieux dans les objets.
Ah oui, alors oui, ils ont tendance à. Oui, il y a des. Alors c'est pour ça qu'ils les révèrent aussi, hein, les totems, toutes ces choses. Tandis que nous, on les considère comme des réalités neutres, à condition de ne pas se laisser séduire par eux. Alors le problème, c'est. Comment dire, alors on est dans des sites, on est dans des civilisations qui sont des civilisations d'héritiers, hein. Des civilisations, on est riche par héritage, pas tellement par travail ni par multiplication des biens, en fait. C'est plutôt, voilà. Alors, parfois, ceux qui ont des grands biens ne se rendent pas compte de la misère de ceux qui ont rien ou des choses de ce genre. Donc, la richesse peut aveugler aussi. Mais en soi, et ça c'est toute la doctrine des Cicéron et autres, en fait il faut avoir le cœur suffisamment ouvert pour se rendre compte que on est d'une certaine manière nos richesses nous obligent vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas. Et à l'époque où il n'y a pas de sécurité sociale, hein, Saint Jean Chrysostome à Constantinople dira la même chose en fait. Donc voilà un des représentants de cette école d'Alexandrie, même le premier de ses représentants, plus connu évidemment, et c'est Origène. Alors il nous est mieux connu. Alors Origène est né en 185, il meurt en 253.